CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Karine Justeau est avec nous en studio, comme tous les lundis, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Bonjour Karine, vous en avez partout aujourd'hui. Alors je ne sais pas de quoi on va parler, alors entre le sac, la trousse de maquillage,
oui,
l'agenda,
bien sûr.
Les documents.
L'agenda, vous savez qu'il est important pour moi.
Et le bonnet à pompons, là on est complet.
Exactement.
Plus personne ne rentre en studio. Mais ça vous rassure, ça.
C'est, oui, c'est,
vous aimez avoir tout sur vous, à proximité, comme
oui.
Ça. De quoi allez-vous nous rabrouer les oreilles aujourd'hui, ou peut-être même nous rassasier les oreilles?
Eh bien, écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler et même de vous soumettre à un petit quiz sur un sujet comme les protéines végétales versus les protéines animal, hein. C'est un sujet très à la mode, évidemment.
Ah bah oui.
Et tant mieux, j'ai envie de dire, ça nous permet encore une fois, comme on disait il y a quelques temps, de l'alcool, de nous interroger sur nos propres consommations, donc c'est intéressant.
Mmh.
Mais je pense que pour être intéressant, il faut que les consommateurs soient bien informés de ce que ça sous-entend, de qu'est-ce qu'il en est vraiment, etc., etc.
Le menu végétarien, là, il est respecté en Aveyron, dans nos écoles, c'est obligatoire une fois par semaine.
Alors,
hein,
en Aveyron, je ne sais pas, mais effectivement, j'ai lu pas plus tard qu'hier qu'il y avait des départements dans lesquels ça n'était pas respecté. En Aveyron, je ne sais pas si j'ai pas lu d'article. Est-ce que vous avez des infos?
Non, je ne sais pas bien. C'était une question plus adressée à une spécialiste de la nutrition.
Je ne sais pas, pour tout vous avouer.
Vous avez un avis? Parce qu'il y a des municipalités, je crois savoir, qui s'y opposent un petit peu, puisque c'est eux qui gèrent la cantine des écoles.
Alors moi je trouve ça dommage de toute façon de s'opposer déjà à la base. C'est vrai que encore une fois c'est pas quand on parle protéines végétales, protéines animales, effectivement ce qui nous vient tout de suite et ça a été votre réflexe à vous aussi, c'est de parler de végétarisme. C'est pas forcément toujours le cas. C'est pas parce qu'on va augmenter une part de protéines végétales en défaveur des protéines animales qu'on
ça
va
reste
devenir
des protéines.
Végétarien.
Mmh.
Et ça reste des protéines. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Mmh. Hein, donc c'est pas l'envie et le fait de faire devenir tout le monde végétarien. C'est pas ça. C'est peut-être aussi s'interroger sur notre propre consommation, mais ça va plus loin. Ça va aussi sur le développement, sur
la question de l'environnement.
L'environnement, c'est ce que je voulais dire, etc., etc.
Le Mag Aveyron, deuxième partie avec notre samouraï de la naturopathie, Delphine Henneke. Ça te va très bien. Alors, on dit pas kimono, je crois, pour un samouraï, mais ça te va très bien, ta tenue de samouraï. Hello, coucou. Salut.
Coucou.
Tout va bien?
J'aime beaucoup le côté samouraï, j'aime beaucoup.
Naturopathe et mycothérapeute. Je vais pas tarder à me faire découper au katana dans 3 minutes. De quoi as-tu choisi de nous parler et de nous chafouiner, de nous rabrouer les oreilles? Je serais même tenté de dire, après la méthode hépato-détox, le foie, la détox, le citron le matin, et qu'est-ce que tu nous réserves là?
Eh bien, écoute, je réserve que je réponds à une petite commande de ta part concernant le ginseng.
Ah oui, on n'en a jamais parlé. Ou la rate. Souvent, je te parle de la rate qui se dilate, le foie qui n'est pas droit. Et non, la rate, tu veux définitivement pas en parler. Ça ne sert à rien, en fait, la rate. On peut se la faire retirer si tu n'en parles pas. Ça n'a aucun intérêt.
Ouais, enfin, il y a d'autres choses que tu devrais te faire retirer aussi, David. Bon, on parle de
ginseng. Il me reste plus beaucoup, alors ça serait dommage quand même. Allez.
Alors oui, le ginseng qu'on a tous entendu parler du ginseng, mais en fait, il y a des ginseng et voilà, on va faire un petit peu le tour, on va faire une exploration en fait des ginseng du monde.
Il y a des couleurs dans le ginseng ou pas? Blanc, jaune,
rouge,
oui, il y en a,
oui,
dans le ginseng.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis il y a une histoire d'âge aussi dans le ginseng.
Ouais, mais c'est surtout ça, voilà.
Ah,
c'est surtout ça. Mais là, en fait, on va pas se focaliser sur le Panax ginseng, celui qui est le plus connu, en fait, qui est le ginseng qui vient de Corée, de Chine, du Japon, etc. C'est celui vraiment. Mais on va élargir en fait au-delà de ça. Bon, ce qu'il faut savoir des ginseng, en tout cas, c'est que ce sont ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Adaptogène, ça veut dire quoi? En fait, ça va aider l'organisme à s'adapter aux différents stress, que ce soit des stress en fait émotionnels, psychiques ou bien des stress physiologiques, physiques. D'accord?
C'est comme les champignons un peu, ils sont adaptogènes.
Oui, exactement. Les champignons sont adaptogènes, tout à fait. Alors, ils ont, en fait, c'est grâce à leur composition moléculaire, en fait, ils ont des substances qui ont à la fois des effets hormonaux, des effets aussi sur le métabolisme, mais aussi sur l'immunité. Donc, en fait, tout ce cocktail-là va aider l'organisme à se moduler, finalement, et à s'adapter, alors, aux différents stress, mais on va voir que c'est large en termes de stress.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
On va continuer de discuter avec Thomas, alias Aka Bobica. Et là, on aurait aimé savoir un petit peu comment t'en es venu à exposer aux haut-parleurs, comment t'as pu connaître l'asso, si tu la connaissais avant, si t'étais déjà venu.
Est-ce que nous sommes mondialement connus ?
Oui, alors, tout le monde parle des haut-parleurs.
Ah bah oui, normal.
Et non, c'est un bar que je connaissais bien, parce que j'étais très content à son ouverture de voir qu'un bar alternatif voyait le jour à Villefranche-de-Rouergue. Et alors moi j'y viens à chaque fois que je suis venu en Aveyron parce que ça fait 4 mois que je me suis réinstallé dans la région et c'est vrai qu'à chaque fois que je descendais de Paris en Aveyron j'avais pour habitude d'aller au Parleur, d'aller voir les concerts ou même des projections de films et débats organisés là-bas. Ouais, je suis content qu'il y ait ça à Villefranche, ça me fait du bien. Ouais. Ça fait du bien à la ville.
Et c'est le milieu associatif, c'est un milieu que tu côtoies beaucoup
C'est un milieu que j'ai l'habitude de côtoyer pour mes loisirs,
pour exposer aussi.
J'ai jamais trop fait d'expo.
Ah oui.
Mais en fait, avant ça, et avant de vraiment foncer tête baissée dans le dessin, j'ai fait partie d'associations, mais plus sur en lien avec mes études, qui étaient les études sur la ville et l'urbanisme. Je connais un peu le credo associatif.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à exposer au café associatif? Tu t'es dit tout d'un coup, ça pouvait être un lieu...
Alors, c'est Anna.
C'est donc Anna qui gère un peu la programmation expo.
Qui t'a proposé.
Qui m'a proposé,
oui. Bah oui, c'était une très bonne idée.
Ah oui, je suis très content. Je suis très très content et très fier.
Je pense que ça a beaucoup plu.
Les haut-parleurs. Je suis avec Julie, notre nouvelle salariée. Question un petit peu fil rouge, un petit peu qu'on pose un petit peu à tous nos invités, c'est comment tu as connu l'association, quelle image en avais-tu avant, et maintenant que ça fait depuis juillet que tu fais prendre la mayonnaise un petit peu, comment tu sens un petit peu tout le monde et tout?
Alors moi j'ai connu les haut-parleurs grâce à des amis qui habitaient Villefranche-de-Rouergue, parce que j'habitais pas à Villefranche-de-Rouergue à la base, donc je suis devenue manger plusieurs fois le jeudi. J'avais des amis qui étaient bénévoles aux haut-parleurs aussi, donc ils m'en ont pas mal parlé. Et je voyais ça comme un lieu qui était ouvert, où il y avait des gens qui avaient envie de s'investir et des gens qui faisaient bouger un petit peu les choses à Villefranche-de-Rouergue.
Donc un appel à poèmes dans le cadre de l'exposition L'œil poète. Il y a le kiosque à poèmes également. Voilà.
Où chaque année, bon, nous faisons la fameuse exposition L'œil poète. Mmh. Et dans ce cadre-là, bon, on expose évidemment sur les cimaises des présentoirs avec les textes des membres de Parole Vive et de quelques poètes invités, dont certains qui ont une certaine notoriété, pour pas dire une notoriété certaine, comme Anne-Marie Bernat qui nous fait la gentillesse chaque année de nous donner des textes. Voilà. Et notre particularité à Villefranche, même s'il y a d'autres coins où on fait des murs où chacun peut venir accrocher des textes, nous avons ce que nous appelons le kiosque à poèmes, qui est un kiosque au sein de l'exposition, et où n'importe qui, jusqu'au 22 mars, peut venir poser son texte ou ses textes. Et la particularité que nous avons, et là je pense que nous sommes peut-être les seuls en France, c'est que les textes sont réunis dans un recueil, les miscellanées poétiques de Parole Vive. Donc cette année, ça sera les miscellanées poétiques 2020 de Parole Vive, qui est déposée à la BNF. Voilà. Donc, c'est une occasion pour Monsieur Lambda, dont je fais partie, d'être édité.
Ouais.
Donc c'est quand même pas mal de retrouver son texte dans un livre avec d'autres, et de rentrer, entre guillemets, dans la postérité, puisque à la BNF, il garde tous les écrits.
Donc, en gros, le mot du jour, c'est vous nous écoutez, vous avez des textes, on peut vous les envoyer, vous les faire parvenir, vous rencontrer à la salle voûtée, puisque c'est
c'est le lieu de l'exposition, nous amener son texte, et disons, il n'y a aucune censure sur la forme, il n'y a aucune censure sur l'écriture, c'est plus ou moins bon, c'est plus ou moins ça, c'est chacun qui s'exprime, parce que l'important c'est de s'exprimer, voilà. Et après, bon, la seule censure qu'il y aurait, c'est celle dite des bonnes mœurs, voilà.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Un point sur votre humeur aussi, le billet d'humeur de Guy Peuzet. Rendez-vous attendu pour ouvrir cette édition dédiée au cinéma, normalement, mais à l'actualité aussi. Vous vouliez nous parler d'un anniversaire.
Voilà, d'un anniversaire, puisque c'est aujourd'hui le 29 janvier. Il y a 20 ans, donc, éclatait un peu une nouvelle qui médiatiquement a fait beaucoup d'effet, la mission Granit, donc, qui retenait le site de Saint-Vincent pour un projet d'enfouissement des déchets nucléaires, mais exactement pour un projet d'installation d'un laboratoire, donc de recherche en vue de l'enfouissement des déchets nucléaires dans le granit. Et ça a éclaté, donc c'est sorti le 28 janvier dans le journal Libération par une fuite qui venait du réseau Sûreté Nucléaire, en particulier c'est André Robinard qui était un élu breton et un citoyen breton engagé qui commenter cette nouvelle avec une liste simple comme ça dans Libération des 15 sites, mais bon, sans autre précision. Mais le lendemain, la presse locale, en particulier départementale, donc s'est emparée de la chose, et dès le 29, après, dès les premiers jours, il y a eu quand même une assez grande émotion. D'abord parce qu'on n'avait pas entendu parler du nucléaire depuis longtemps, on n'en parlait pas dans nos régions, on était habitués au nucléaire en France, et on ne se posait pas trop la question des déchets, même si la loi Bataille, depuis 1991, l'a posée, la question des déchets.
C'est toujours obscur, hein, les déchets nucléaires, on ne sait toujours pas trop quoi en faire.
Maintenant,
hein,
oui, mais par contre, voilà, on ne sait toujours pas trop quoi en faire. Et là, la mission, donc, la loi Bataille, c'est justement qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité. Et donc, l'association Sereine s'est créée dans les mois qui ont suivi, enfin de février à mars, avril, mais déjà en fin mars, c'était quand même juridiquement déposé en préfecture, et donc avec Pierre Batson qui a été le premier président, et tout de suite donc c'était quand même quelque chose qui m'a marqué en particulier moi, donc c'est pour ça que j'en fais un biais d'humeur, puisque j'étais encore dans l'Hérault et j'essayais de suivre tout ce qui se faisait. Il y avait une belle énergie, et cette énergie tout de suite elle est devenue aussi une énergie politique avec des volontés fortes dont je me rappelle bien, la volonté de garder une association sereine où il y avait à la fois des élus et des citoyens. Et alors après, nous siégions à des coordinations nationales où il y avait à la fois la coordination des élus dont je faisais partie et la coordination des citoyens. C'était parfois Charlotte, que tout le monde connaît, qui représentait les citoyens, ou Pierre Batson, justement, lui-même, qui avait été allé au début, puis Charlotte van der Verte et d'autres. C'était tout à fait intéressant, cette volonté territoriale ici, nous, de garder cette union des politiques qui n'était pas très marquée ni à très gauche, ni en tout cas pas à l'extrême gauche comme ont marqué les antinucléaires, et des gens de la société civile qui s'opposaient au projet. Ensuite, je crois très vite aussi la volonté de dire, si on refuse l'enfouissement des déchets, on réfléchit sur les déchets, il faut aussi vouloir sortir du nucléaire et donc engager des réflexions pour sortir du nucléaire. On a conduit dès 2001, c'est-à-dire un an après, à inscrire dans les statuts et comme objectif d'association la promotion des énergies renouvelables. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était nouveau.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
On ne finit pas les phrases. Hein.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
Revue de titre qui débute avec le dossier de la semaine.
Un dossier que nous consacrons au municipal, évidemment. On se trouve aujourd'hui à 6 semaines du premier tour, qui à Villefranche risque d'être de tour décisif, hein, puisqu'on a appris que la liste de gauche allait jeter l'éponge, si ce n'est déjà fait, et que la liste de Mourgère-Durand, Philippe Mourgère-Durand, était elle aussi en grande difficulté quant à sa constitution. Donc, faute d'un nouveau venu sur la scène, on en parlera un petit peu plus loin dans cette revue de titres, eh bien, on pourrait avoir un seul tour à Villefranche-de-Rouergue. Mais c'est pas ce qui nous occupe dans ce dossier, parce que, évidemment, avant d'en être là, il faut nous pencher sur l'analyse complète de ce qui se passe sur notre territoire en termes de candidature. Et c'est l'objet du dossier que nous consacrons cette semaine au municipal, puisque secteur par secteur, hein, Villeneuve, Cap-de-Nacquois, Ségala, Ceinture Villefranchoise, Najaquois, Tarn-et-Garonne, le Lot aussi, enfin tout ce qui concerne la zone de diffusion de Villefranchois, on fait un point sur les candidatures dans chacune des communes. Est-ce que le maire se représente ou pas? Est-ce qu'il y a une liste qui se présente face à lui ou pas?
Jusqu'au 27 février, hein, pour déposer sa candidature.
C'est un premier point. C'est un premier point d'étape, mais déjà ça donne une idée un petit peu. Déjà, quand le maire annonce qu'il se représente pas, ben au moins on est à peu près certain qu'il va y avoir soit une autre candidature, soit que la commune, ben, ça risque d'être le cas à Toulon-Jacques, se retrouverait orpheline d'une équipe municipale. Et dans ces cas-là, bien si la loi a tout prévu, c'est la préfecture qui administre la commune, le temps qu'il y ait une candidature qui puisse émerger, ou aux élections suivantes, quelqu'un vienne se manifester.
Ça raconte quoi? C'est quoi? Des instants de vie, de l'intime, de l'émotion aussi. D'ailleurs, Derli, on sent que c'est très personnel, hein, comme ouais, projet aussi, et puis familial avec l'équipe et les arrangements de Nicolas Lécombe.
Moi, je dis souvent que c'est une vie, quoi. Enfin, c'est des choses de la vie, voilà. Mmh. Donc c'est personnel, et en même temps on s'est rendu compte que ça touchait les gens, quoi. Mmh. Ces chansons là en plus, avec tous les arrangements qu'a fait Nicolas, toute la musicalité qu'on voulait aussi dans ce projet là c'est-à-dire que c'est un projet chanson, mais c'est un projet aussi musical. Mmh. Et moi j'y tiens beaucoup, en fait, et y a un beau boulot qui a été fait autour de tout ça, et donc ça raconte je dirais presque l'histoire d'un homme, quoi, en fait. C'est peut-être moi. Mmh. Y a des choses très personnelles, effectivement.
Ça arrive à un certain âge aussi,
tout à fait, hein, je pense qu'il y a ça. Et puis c'est vrai que ce départ, ces chansons là, elles sont voilà, je referai pas, je pense, des chansons comme ça. C'est des chansons où il y a beaucoup le jeu. Bon voilà, c'est fait, quoi. Enfin, on se flingue pas. Il y a de l'humeur, il y a un peu de sourire. On est dans une autre démarche. C'est-à-dire, ces chansons, moi, je les ai écrites avec aucune. Quand on écrit un spectacle d'humour, ben on essaie de faire rire, quoi. Donc là, j'avais, comme Nico avait carte blanche sur toute le monde et tout ça, moi j'avais une carte blanche à moi-même, quoi. Donc j'ai écrit ce qui me plaisait, des choses que je m'autorisais peut-être pas, mais en même temps on s'est aperçu que dès les premiers concerts que ces chansons, elles parlaient vraiment à des gens, quoi.
Je précise, parce que quand tu m'avais envoyé aussi tes chansons, tu m'avais dit attention, c'est pas drôle, quoi. Et en fait, si, enfin,
ouais,
c'est des chansons d'humeur, mais c'est pas des chansons tristes, plombantes, voilà. Il y a beaucoup de vie et beaucoup de choses, et c'est pour ça peut-être aussi que ça plaît, parce que les gens, et puis même nous, on arrive à s'identifier dans ces chansons. Mmh. Voilà.
Donc, pour dire, je te coupe, mais pareil, c'est-à-dire que dans ça, j'ai été, et je suis toujours très touché, de l'aventure qu'on vit, quoi. On fait un spectacle, effectivement, on y est là, mais c'est une aventure humaine forte, parce que c'est un projet où tout le monde a plongé, quoi, et encore aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est, pour moi, c'est très très touchant.
Et qui tourne depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a un peu de Wally qui remonte dans le spectacle de temps en temps et voilà, et puis il y a Lilian qui est derrière.
Ouais. Un petit peu, ouais, un petit peu quand même entre les chansons. On a resserré, on travaille toujours là-dessus. Faut faire attention de ne pas déborder, en fait. Il y a un peu de, oui, parce que, en fait, ce que dit Nico, il a raison. C'est-à-dire qu'au début, moi, je disais chansons pas drôles. Ça, à la même temps, le premier retour qu'il m'avait fait, ou des copains m'ont dit, mais t'es là quand même, quoi. T'es là, même dans son écriture. Elle est moins à recherche de l'efficacité humoristique, mais dans l'écriture, il y a toujours une écriture assez nostalgique quand même pour ces textes-là, en l'occurrence. Mais il y a toujours une pointe, quoi, de un peu d'humour, quoi, qui est moins dans une efficacité d'humour quand on fait un spectacle d'humour. Mais il y a toujours, on se refait pas, quoi.
Ah, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement, ni commencement ni fin. Et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag, tous les jours,
12h30,
la vie du Villefranchois.